Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale, il est 10h30 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
Simon Bourtembourg.
Les relations entre le Niger et la Chine ou comment négocier avec un partenaire dont on est dépendant. L'ultimatum de Niamey à Pékin est arrivé à son terme. Une partie des employés de la compagnie pétrolière chinoise au Niger est priée de quitter le pays. Que va-t-il se passer maintenant, avis d'expert dans ce journal. De Dakar à Moroni, en passant par Kinshasa, les supporters du Paris Saint-Germain célèbrent le premier titre du club français en Ligue des Champions. Ils n'en demandaient pas tant. 5-0, score final face à l'Inter Milan, reportage dans la capitale congolaise dans ce journal. Et puis nous reviendrons sur le parcours de l'une des plus jeunes diplômées de l'université de Pretoria. Elle a seulement 17 ans, la fierté est immense dans sa famille et sa précocité impressionne sur les réseaux sociaux. L'ultimatum est donc arrivé à son terme au Niger. Début mai, le ministère du pétrole nigérien a ordonné à la compagnie pétrolière chinoise de résilier les contrats de travail de ses expatriés en poste depuis plus de 4 ans. L'exécutif exigeait notamment le départ de ses travailleurs et ce au 31 mai au plus tard. L'échéance est donc passée mais la situation est actuellement bloquée. La Chine reste en effet le principal partenaire du Niger où le pétrole est la première ressource d'exportation. Une dépendance financière qui réduit la marge de manœuvre du Niger dans ses négociations. C'est en tout cas l'avis de Benjamin Auger. Il est chercheur spécialiste des questions pétrolières à l'IFRI.
La Chine peut attendre, la Chine a le temps. La junte n'a pas le temps. La grande différence entre la Chine et d'autres investisseurs, c'est que c'est des investissements globaux, c'est-à-dire qu'ils voient la totalité de leur coopération entre le Niger et eux, et ils peuvent se permettre d'avoir des crises, y compris des fermetures de raffineries s'il faut. L'acteur chinois dans le secteur pétrolier est actuellement irremplaçable. Donc c'est un bras de fer politique ce qui est en train de s'engager. C'est-à-dire que justement l'objectif c'est de faire en sorte que les Chinois payent davantage, fassent de nouveau des préfinancements, c'est-à-dire qu'ils donnent de l'argent avant que l'argent soit dégagé par la vente d'hydrocarbures. Et l'objectif, c'est justement que la junte, qui a des difficultés à générer de l'argent par d'autres secteurs, fasse pression sur le seul acteur qui génère de l'argent, qui est donc la CNPC et le pétrole, en les menaçant justement de fermeture, qui est le seul moyen qu'ils ont sur eux pour essayer de les faire donner davantage de moyens financiers à la junte.
Le général Tiani a lui déclaré hier que la Chine et ses sociétés pétrolières jouaient un jeu trouble au Niger. Interviewé à la télévision nationale, le chef de la junte nigérienne a continué d'accuser cette fois son voisin béninois d'accueillir des bases militaires françaises où s'entraîneraient selon lui des djihadistes, ce que Cotonou et Paris ont toujours nié. Niamey fait par ailleurs savoir que la frontière entre le Niger et le Bénin restera fermée. En bref, ce tragique accident de car au Nigeria, 21 personnes sont mortes hier soir sur la route. Aucun autre véhicule n'est en cause, mais la sécurité routière avance que le drame pourrait être survenu en raison de la fatigue et de la vitesse excessive du car. Dans un long trajet de nuit, les victimes revenaient du 22e Festival National des Sports.
RFI.
Près de 57 000 étudiants d'Afrique subsaharienne étaient inscrits l'année dernière dans des établissements d'enseignement supérieur aux États-Unis. Un cursus outre-Atlantique fantasmé par de nombreux jeunes du continent qui s'engagent même financièrement dans un long processus pour obtenir l'autorisation d'aller étudier aux États-Unis. Sauf que voilà, cette semaine, le département d'État américain a annoncé la suspension des visas pour les étudiants étrangers. Explication avec Amélie Tullet.
Une décision unilatérale, injuste, un manque de considération à l'égard des très nombreux étudiants qui travaillent parfois des années sur leur dossier. C'est ainsi que Félix Idjegalou, président de l'Association nationale des étudiants du Nigeria, perçoit les dernières annonces de Washington.
Beaucoup d'étudiants consacrent du temps, des efforts à ces dossiers et eux, ils arrachent aux gens leurs projets d'un coup, comme cela, juste parce qu'il y a un changement de gouvernement. C'est vraiment injuste, selon moi. Nous n'empêchons pas les citoyens américains de venir au Nigeria. En plus, ils ne rembourseront personne. Les ambassades ne rembourseront pas tous les frais de dossier, tous les tests de langue qu'il faut passer. C'est vraiment injuste pour nous, car c'est nous qui dépensons l'argent.
Pour Njema Anjalaga, présidente de l'Association des étudiants anglophones de l'école polytechnique de Yaoundé au Cameroun, il faut y voir une opportunité.
Ça va aider les étudiants à envisager d'autres pays. Et aussi, ça va nous aider, nous, Africains, à penser à développer nos propres infrastructures, à nous créer des opportunités. Parce que nous avons de grandes écoles sur le continent, dans différents pays africains. Mais nous avons toujours tendance à penser que ce serait mieux ailleurs et nous cherchons à partir.
Depuis les annonces du département d'État américain, de nombreuses universités dans le monde entier se mobilisent pour courtiser les étudiants qui visaient un cursus aux États-Unis.
Au Cameroun, malgré l'incertitude autour de la candidature de Paul Biya à la présidentielle d'octobre prochain, les leaders du RDPC dans la région du Sud-Ouest réaffirment leur soutien au chef de l'État. À moins de 5 mois du scrutin, les cadres locaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais étaient réunis hier à Bouéa, l'occasion pour eux de lancer une levée de fonds pour la campagne de Paul Biya. Dans le même temps, cette fois à Paris, des milliers de Camerounais se sont rassemblés en soutien à la candidature de Maurice Kamto. Devant ses partisans, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est présenté en messager de l'unité du pays. Le score est historique pour une finale de Ligue des Champions. 5-0, les Parisiens n'ont laissé aucune chance hier soir à l'Inter Milan. Le PSG remporte sa première coupe aux grandes oreilles. Un aboutissement pour les actionnaires qatariens arrivés à Paris il y a de ça maintenant 14 ans. Il faut dire que depuis, les supporters parisiens ont vécu moult grandes désillusions sans jamais cesser de rêver plus grand. Paris était donc en liesse hier soir au coup de sifflet final. Des scènes de joie observées dans toutes les grandes villes du continent où les fans du PSG se sont retrouvés. Illustration à Kinshasa avec Olga Massangou.
Inattendu est le score de 5-0 en faveur de Paris dans cette finale.
Je n'espérais pas la victoire du Paris Saint-Germain. Déjà 2-0 à la première mi-temps. J'étais un peu surpris de voir cette équipe menée face à l'Inter de Milan.
Pour beaucoup de supporters, cette finale parisienne est une consécration au vu de leur saison.
C'était un souhait que Paris gagne. Pour moi, qui ai commencé à suivre Paris Saint-Germain depuis l'époque de Patrice Loco, de Michel Madar, de Eric Rabessandra à Tana, ça rentre dans l'histoire. C'est vraiment un match plus qu'historique, mais en face, c'est plutôt un carnage.
C'est un esprit collectif du PSG. En tout cas, bravo.
Des supporters du PSG venus de quelques quartiers de Kinshasa étaient réunis sur l'avenue des Huileries dans la commune de Lingwala. Et du premier au cinquième but parisien, ils étaient aux anges. À l'image de sa saison en Ligue 1, le PSG a marché sur cette finale pour remporter sa première Ligue des Champions face à une équipe d'Inter Milan qui n'a pas existé. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
Et après la Ligue des Champions en Europe, place ce soir au verdict de la Ligue des Champions africaine, une finale qui se joue cette fois en deux manches. Il y a eu un partout au match aller en Afrique du Sud entre les Mamelodi Sundowns et le FC Pyramids, le club égyptien qui reçoit le match retour au Caire, coup d'envoi à 17h temps universel. Ses domaines d'expertise, ce sont les mathématiques et les statistiques. À seulement 17 ans, la sud-africaine Mon Giwa Hazel Touli a reçu son diplôme universitaire. Un diplôme qui fait de la jeune femme l'une des plus jeunes diplômées de l'université de Pretoria. La fierté familiale est évidemment immense et sur les réseaux sociaux, la précocité de Ntouli force au respect. Valentin Hugues.
Le visage de Ntouli fait le tour de la toile. Merci de supprimer votre article, j'ai peur que ma mère tombe dessus. S'amuse un internaute un peu jaloux d'une telle précocité. Elle est incroyable, un merveilleux exemple. J'adore voir des filles noires réussir. Autant de messages de félicitations qui témoignent d'un profond respect pour le parcours de la jeune fille. Mon Giwa Hazel Touli quitte le lycée à seulement 14 ans, rejoint l'université et reçoit son diplôme avant sa majorité, un diplôme en plus particulièrement difficile à obtenir en sciences actuarielles, un mélange de mathématiques et de statistiques pour évaluer les risques dans la finance. Une précocité qui n'a pas toujours été simple à gérer, mais ses fréquentations l'ont aidée, dit-elle. De nombreux anciens camarades se disent d'ailleurs très fiers d'avoir partagé les bancs de la fac à ses côtés. Une vague de bienveillance partout dans le pays qui s'ajoute à la fierté d'une famille. En plus d'être l'une des plus jeunes diplômées de son université, Ntouli est la première de sa famille à atteindre ce niveau d'études à seulement 17 ans. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Enfin, c'est une terre rare dont le gouvernement gabonais veut tirer le maximum de bénéfices. L'exportation du manganèse brut est l'une des principales sources de revenus du Gabon. Eh bien, dès 2029, l'exécutif entend changer de stratégie. Il annonce l'interdiction d'exporter du manganèse. RFI, 10h40, ici à Paris, 2h de moins en temps universel. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde.